Bonjour. Alors, je vais relire le texte qui nous occupe depuis hier, et on se fixera plus particulièrement sur le verset 13 cet après-midi. Tite 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les œuvres bonnes. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu cet après-midi. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Alors cet après-midi, je voudrais m'adresser à vous en suivant deux points. Le premier point sur la grâce, en rappelant ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Et le second point sur l'espérance, avec la même idée, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. La grâce a pourvu, c'est la première chose que ce texte nous dit. La grâce n'est pas la bonté de Dieu, ni même son amour. Elle est cet amour s'abaissant jusqu'à des pécheurs, perdus, pour les sauver, comme il nous a été rappelé avec cette image parlante du sauveteur en mer. Et la grâce, ici, est une personne, comme dans le prologue de l'évangile de Jean, une personne pleine de grâce. Elle n'est ni un principe, ni une abstraction. Elle est le Dieu sauveur dans la personne d'un homme, apparaissant de telle manière que tout homme a pu la voir et la recevoir. Elle n'est pas apparue pour exiger quelque chose de l'homme, mais pour lui apporter une chose inestimable, le salut. Et ce qui donne à la grâce cette valeur, c'est qu'elle est la grâce de Dieu. Elle est donc souveraine et parfaite. La grâce de Dieu est éternelle comme lui. Avant de considérer ce qu'est le salut, ce grand salut, notons que ce passage nous parle de deux apparitions. D'abord, l'apparition de la grâce, descendue ici-bas pour apporter le salut. Ensuite, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La première apparition, en fait, nous apporte le salut en grâce. La seconde, le salut en gloire. Le salut en grâce a été parfaitement accompli dans le passé. Le salut en gloire le sera parfaitement, dans un avenir si prochain qu'il est déjà comme présent pour la foi. Et le caractère de cette grâce est absolu. Il n'est pas dit qu'elle apportera, ni même qu'elle a apporté, mais qu'elle apporte. Cela fait du salut parfaitement accompli une chose actuelle, immuable, qui ne peut être ni changée ni révoquée. Mais de plus, elle est apparue à tous les hommes, ce qui rappelle sa portée universelle, dont personne, a priori, n'est exclu au départ. Et cette gratuité du salut contredit toutes les pensées de l'homme depuis la chute. Jamais son orgueil ne voudra accepter que le don de Dieu ne lui coûte rien. Il acceptera facilement un Dieu sauveur qui lui commanderait de conquérir le salut, ou lui offrirait son aide éventuellement pour l'obtenir, ou enfin qui lui enseignerait les divers moyens de l'acquérir. Il comprendrait un salut résultat de son zèle pour les bonnes œuvres, mais jamais un salut entièrement gratuit. L'homme voudrait offrir quelque chose, même très peu, afin de l'obtenir et sûrement de pouvoir un peu s'en vanter ensuite. Mais revenons au salut lui-même. Pour le croyant, et je crois que c'est important de le rappeler, le salut n'est pas seulement le pardon des péchés qu'il a commis. Dans leur immense majorité, les chrétiens s'arrêtent à cette vérité première et passent leur vie sans avoir connu la véritable délivrance. Cette délivrance est non pas le pardon des péchés, mais l'absolue délivrance du péché de la racine même qui est en nous. Et cette délivrance est opérée en ce que Christ, ayant été fait péché à notre place, notre vieille nature a été condamnée et crucifiée dans sa personne. Désormais, nous pouvons nous tenir pour morts au péché. Et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et de ce fait, toutes les conséquences du péché, l'esclavage de Satan, la mort, le jugement, ont été réduits à néant. Vous voyez, cette délivrance est immense. Et pourtant, le salut est encore bien plus que cela. Il n'est pas seulement la délivrance du péché et de toutes ses conséquences passées, présentes et futures. Il est l'introduction actuelle du croyant dans la présence de Dieu. Sa réception, selon l'entière acceptation de Christ en vertu de son œuvre par Dieu lui-même. Acceptation qui a été publiquement déclarée en ce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. Et enfin, le salut est l'introduction encore future dans la jouissance parfaite de toutes les choses que nous ne possédons encore qu'en espérance et qui vont être manifestées dans la gloire. Voilà le salut que la grâce nous apporte. La grâce a commencé par apporter le salut à tous les hommes et on l'a revu tout à l'heure, elle nous a enseigné aussi, elle nous enseigne. Le croyant se trouve désormais non pas comme Israël sous l'enseignement de la loi, mais sous celui de la grâce. La grâce étant apparue en Christ a remplacé le premier conducteur ou instituteur qui est mis de côté. Et là, en revanche, ce nouvel instituteur n'est en aucune manière donné au monde. Il faut d'abord que les hommes soient sauvés par la foi, et ce n'est qu'alors qu'ils peuvent être enseignés. Ceux qui ont été sauvés forment désormais une nouvelle famille qui a besoin d'une éducation. Et la grâce s'en charge. Aussi, nous trouvons ici ce petit mot « nous enseignant », ou plutôt, d'après le grec, « nous éduquant », parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Dieu n'enseigne pas le monde, mais il enseigne son peuple, ceux qui lui appartiennent. Sans doute, il enseigne le chemin aux pécheurs, c'est-à-dire à ceux qui reconnaissent leurs transgressions et font appel à sa grâce et son pardon. Mais ceux-là, dans cette qualité, s'approchent de Dieu et mettent leur confiance en lui, sont déjà comptés parmi les humbles. Jamais il ne pourra exister un terrain d'entente entre le péché et la grâce, parce qu'ils sont entièrement opposés l'un à l'autre. La grâce n'améliore pas le pécheur, et je crois qu'il faut le redire ça aussi. Elle n'améliore pas le pécheur, elle le sauve. C'est tout à fait différent. Le péché sépare l'homme de Dieu, la grâce l'amène à Dieu. Le péché a servi l'homme à Satan, la grâce le libère de cet esclavage. Le péché produit la mort, la grâce donne la vie éternelle. Le péché conduit l'homme au jugement, la grâce lui apporte la justice. Le péché a pour conséquence la condamnation, la grâce ôte la condamnation pour toujours. Voilà l'enseignement de la grâce. Elle nous enseigne quant au passé, quant au présent, quant à l'avenir. Quant à passé, au passé, nous l'avons vu, à renier l'impiété, les convoitises mondaines. Quant au présent, à vivre dans ce présent siècle sobrement, justement, pieusement. Et quant à l'avenir, à attendre la bienheureuse espérance. Cet enseignement de la grâce est, comme on le voit, entièrement pratique. Ce n'est pas une vague théologie qu'on ne comprend pas. C'est un enseignement pratique qui caractérise d'ailleurs toute la doctrine et l'enseignement de cet épître. Voilà ce que la grâce nous enseigne quant à notre conduite ici-bas. Et on pourrait dire qu'il y a trois objets de cet enseignement. Je les rappelle ici. Toute la marche chrétienne enseignée par la grâce se trouve comprise entre le point de départ du croyant, la croix, et son point d'arrivée, la gloire. Cette marche est désormais étrangère à tout ce qui avait caractérisé notre conduite loin de Dieu. C'est le renoncement. Renoncer et vivre, ce qui nous a été rappelé hier soir. Deuxième objet, nous n'appartenons plus au monde, car nous sommes du ciel, une nouvelle création. Nous sommes son peuple, C'était l'objet de la prédication de ce matin. Et troisième point, elle nous apprend à attendre la venue du Seigneur pour nous enlever auprès de lui. Nous attendons l'espérance. C'est ce que nous considérons maintenant. Alors l'espérance, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, le premier point qui m'a frappé dans ce texte, c'est que l'espérance nous décentre de nous-mêmes. Et le verset 13 qui nous occupe cet après-midi nous rappelle que la position du chrétien ici-bas est en état d'attente. L'Église attend l'apparition de son Sauveur, qui sera aussi glorieuse pour le Seigneur lui-même et pour ses rachetés que sa première apparition avait été humble et remplie d'opprobre et de souffrance. Et cette pensée, cette attente-là, est tout ce qu'il y a de plus propre à détruire en nous les convoitises mondaines et à y développer la vie chrétienne et sainte dont l'apôtre vient de retracer les principaux caractères. Jean Calvin avait cette phrase que je trouve vraiment bien dite. Le Seigneur, en nous appelant au ciel, nous retire de la terre. Le Seigneur, en nous appelant au ciel, nous retire de la terre. Et la foi, en effet, change notre compréhension du temps. Le temps présent, le temps dans lequel nous vivons, est inscrit en fait entre deux épiphanies, d'après ce texte. La manifestation de la grâce de Dieu, d'une part, acte qui a été posé, accompli, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, qui constitue notre attente. Et finalement, la sagesse, la justice et la piété sont les fruits d'une compréhension particulière de ce temps-là. De même, la pureté du verset 14, qui est un fruit de la grâce, un don de Dieu. Comme l'a rappelé le pasteur Charles Nicolas ce matin, « En Christ, Dieu me voit pur, il me reste alors à devenir ce que je suis. » La grâce est donnée, la gloire est à venir, et pour l'instant, cette gloire n'est pas encore pleinement manifestée. Et notre vie, comme le rappelle Paul aux Colossiens, est cachée avec le Christ, en Dieu. Ce que nous attendons, notre espérance, c'est la manifestation de la gloire. Et voilà pourquoi cela nous décentre de nous-mêmes. Parce que parfois, quand nous parlons du retour du Seigneur, nous mettons l'accent sur ce que cela va nous apporter à nous. Nous pensons à la fin du mal, des larmes, de la mort. Nous pensons au jugement des méchants ou au renouvellement de la création. Nous pensons à la vie éternelle. Éventuellement, nous spéculons sur ce que nous y ferons et avec qui. Or, ici, nous sommes invités à changer de point de vue. Nous n'attendons pas premièrement notre délivrance ou la fin des douleurs de la création. Même si tout ça, c'est biblique et bon, nous attendons premièrement Dieu qui révèle la gloire de son Fils. Nous attendons de voir tout le bien que Dieu pense de son Fils. Comment est-ce que cela peut avoir de la valeur pour nous comme attente quand nous voyons à quel point nous sommes souvent si égoïstes? Je crois que la réponse est dans ce qui précède finalement. Nous serons capables de vivre cette attente parce que la grâce nous aura éduqués à attendre, à la désirer, cette venue. Parce que ce qui nous importe, ça n'est plus nous-mêmes, mais Christ et Christ seul. Lui plaire, lui convenir. Parce que nous désirons de tout notre être voir sa gloire, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce qui peut surprendre ici, c'est que l'apôtre nous exhorte à attendre l'espérance. Ça peut paraître un peu contradictoire en soi, et d'ailleurs on se dit l'espérance, les chrétiens l'ont déjà. Mais l'expression devient claire si l'on observe que ce mot espérance est en général employé pour l'objet en fait de l'espérance, que Paul désigne ici comme l'apparition de Jésus-Christ. Et le terme grec qui est utilisé, qui est traduit par attendre, c'est intéressant de voir qu'il parle justement de recevoir quelqu'un, pas d'attendre quelque chose de vague. Recevoir quelqu'un, laisser entrer ce quelqu'un qu'on attend, s'attendre à l'accomplissement des promesses. Alors je crois, chers amis, qu'il s'agit de rééduquer notre désir. Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Ou plutôt si, nous attendons quelque chose qui concerne quelqu'un. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce bien là ce que nous attendons? Attendons-nous seulement encore quelque chose? Je crois que c'est vraiment le problème dans le monde dans lequel nous vivons. Tout est fait pour que nos espérances, nos attentes soient placées dans des choses périssables. Un meilleur travail, une belle maison, un corps plus jeune, une réussite familiale et professionnelle qui va se voir, etc. On pourrait allonger la liste longtemps, je crois. Mais ce texte, une fois de plus, nous invite à sortir de nous-mêmes pour regarder à Christ. Il nous invite à laisser les choses de la terre, à ne pas nous placer comme le centre de l'univers, mais à tout regarder, à tout considérer à travers le regard de Dieu. Et ce regard, mes amis, ne peut que nous conduire à fixer le Christ, à le contempler, à l'adorer. Tout ce que fait Dieu, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, il le fait en Christ, pour Christ, par Christ. Et il faut qu'il en soit de même pour chacun de nous, que nous soyons occupés de Christ et de Christ seul. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, tout ce qui m'importe, c'est Christ et son œuvre. Martin Luther disait qu'il nous fallait vivre comme si Christ était mort hier, ressuscité aujourd'hui et qu'il revenait demain. Combien cela changerait notre regard sur le monde, ses joies et ses peines si nous vivions ainsi? Combien cela changerait la nature de nos désirs aussi? Plus d'attachement aux choses de ce monde puisque nous sommes attendus ailleurs, plus d'envie de se faire un nom ici-bas. Non, notre seul désir serait bien de plaire à Dieu et d'attendre des cieux le retour de son Fils bien-aimé, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui revient manifester sa gloire et sa magnificence. Alors que Dieu nous donne de contempler son Fils, l'auteur de notre salut, que nous sachions bien compter nos jours et vivre ce temps intermédiaire entre la manifestation de la grâce et la manifestation de la gloire en ayant les yeux fixés sur Jésus. Amen.